Le dehors, l'impossible et moi, un calendrier intellectuel.
Le mois de mai 2008, selon Anne-Martine Parent.
Le dehors, l'impossible et moi. Je ne cesse de faire jouer ces trois mots dans ma tête. Qu'est-ce que le dehors? Qu'est-ce qui me sépare du dehors? Est-ce le dehors qui est impossible ou est-ce moi? Ou l'impossible serait-ce ma présence dans le dehors? Peut-on être dans le dehors ou est-ce qu'on est toujours à l'extérieur? Et si je ne suis pas dans le dehors, où suis-je? Dans quoi? Pas dans moi, impossible. Alors c'est moi qui suis dehors? Je me plonge dans le mois de mai 2008, 40 ans après son célèbre frère, mai 68. Mai 68 où l'impossible était érigé en idéal à atteindre. Soyons réalistes, demandons l'impossible, pouvait-on lire sur les murs. L'impossible, c'est quoi en 2008? Je me plonge dans le mois de mai, donc, mais déjà je m'arrête, juste avant de plonger dans mon envol. Car il y a une chose qu'il faut savoir sur moi, sur ce moi dont il est question dans le titre, certes toujours pris dans une ligne de fiction, comme disait l'autre, qui déjà? Puisqu'il en est question, donc, il faut dire que moi, je ne plonge pas. Métaphoriquement. Littéralement, je plonge toujours, pas de problème. Je plonge dans la piscine quand les autres se mouillent le bout des orteils, puis les mollets, et ainsi de suite. Moi, non, je plonge. Littéralement. Mais pas métaphoriquement. Je ne plonge pas dans les choses, je n'arriverai pas à plonger dans ce mois de mai 2008, je vous le dis tout de suite. Je le sais déjà parce qu'au moment où je vous le dis, il est déjà terminé, et donc je le sais. Je n'arriverai pas à plonger dans ce mois de mai, comme dans bien d'autres choses. Toujours je reste sur le seuil, sur le bord, sur le pas de la porte. J'entre ou pas? Entre les deux, je choisis l'ambivalence. Elle sera ambivalente toute sa vie, a dit un jour de moi un médecin qui ne savait pas que j'étais juste là, à côté, et que je l'entendais par la porte ouverte. Encore une histoire de porte. L'ambivalence, donc, l'inconfortable seuil, le bord juste avant ou juste après. Est-ce que j'entre? Et donc, est-ce que je sors? Au bord du mois de mai 2008, je me rappelle soudainement que ce que je viens de dire est faux. Enfin, un peu faux. Parfois, je plonge métaphoriquement. Me revient soudain le souvenir de mai 2007. Le souvenir est comme un chien qui se couche où il veut, écrit Sis Nootboom, écrivain néerlandais. Et donc, il l'a écrit en néerlandais. Mais je ne peux pas vous le citer en néerlandais, je ne peux que dire merci ou commander un café au lait, un café renversé en néerlandais, à une café Ferkert, le café par-dessus le lait. Ils sont d'ailleurs très bons aux Pays-Bas, les cafés, meilleurs qu'en France, si vous voulez mon avis. Les cafés en France sont trop noirs, aux Pays-Bas ils sont bruns, c'est ce que je préfère. Me revient soudain, disais-je, le souvenir de mai 2007, dans lequel j'ai plongé avec délice, je me le rappelle très bien. Il faisait beau, je sortais le matin avec mon café au lait, café Ferkert, aux Pays-Bas. Je m'installais sur ma chaise longue à l'ombre, j'adore le soleil tant que je peux être à l'ombre. Et je lisais, comme ça, dans l'oubli total de tout, sauf de l'ombre, du soleil et de mon livre. J'en oubliais même mon café à l'envers, qui se refroidissait. Jusqu'à midi, 1 heure, tous les jours, sauf s'il pleuvait. C'est comme ça que j'ai plongé dans le mois de mai l'an dernier. C'était ça ma plongée, le soleil, l'ombre et un livre, et un café à l'envers. Moi, et dehors. Mais cette année, pas possible. Impossible, donc? Non, peut-être pas impossible, juste pas possible. Pour toutes sortes de raisons, à commencer par le temps, c'est-à-dire la température, qui rendait la chose peut-être pas impossible, mais difficilement possible. Donc pas de plongée, pas de ce type de plongée en tout cas, et déjà, un doute me saisit. Était-ce vraiment plongée, cette manière de s'absenter à tout ou presque, de ne pas exister pendant quelques heures, tous les jours, le matin, ou d'exister d'une autre manière, qui est peut-être celle que je préfère, dans l'oubli de moi et du monde, du dehors. Quoi qu'il en soit, plonger ou oublier des choses, ça n'arrivera pas en mai 2008, ce n'est pas arrivé. Mai 2008, j'en suis restée sur le bord du début à la fin. Entre autres à cause de cette chronique, ou serait-ce pour elle, parce que je me demandais toujours, puisque je dois faire une chronique sur le mois de mai 2008, devrais-je écouter assidûment les nouvelles, m'informer sur ce qui se passe? Mais j'hésitais pendant tout le mois. Après, c'était trop tard. L'actualité, se plonger dans le bruit et la fureur du monde, c'est presque impossible pour moi, puisqu'il me faut parler de moi. C'est un dehors impossible pour moi, non pas que ça ne m'intéresse pas. Mais si j'y plongeais vraiment, je ne crois pas que je m'en remettrais. Ni que j'en reviendrais. D'ailleurs, c'est comme ça presque à chaque fois que j'apprends quelque chose sur l'actualité dans le monde, dans les journaux, à la télévision ou à la radio, ou encore par quelqu'un qui me le dit, à chaque fois donc, je n'en reviens pas, je ne m'en remets pas, ou alors je reste à l'extérieur. J'ai appris à rester à l'extérieur, sur le bord, dehors. Sur le bord, dehors, sentant que sinon, je n'en reviendrai pas, je ne m'en remettrai pas. Comment faire? Quand j'apprends que des enfants en Afrique de l'Ouest sont esclaves dans des plantations de cacao, et moi j'aime le chocolat, que des prisonniers sont torturés à Guantanamo Bay, ou, pour prendre un exemple, disons plus actuel, tiré de mai 2008, que la junte militaire au Myanmar refuse de laisser entrer l'aide internationale dans le pays dévasté par un cyclone, quand j'apprends ça ou autre chose, je suis démunie. Je crois même que je suis dénudée, mise à nu, livrée au monde, au dehors, et c'est impossible. Alors je reste sur le seuil, sur le bord. Même si ça aussi c'est impossible, car comment ne pas voir le luxe et le confort de ce seuil inconfortable? En ce qui concerne mes 2008, je suis donc restée sur le bas, prenant toutefois ce qui pourrait peut-être s'appeler une décision. OK pour l'actualité, mais seulement ce que je saisis au hasard. Le hasard en fait en sorte que mon mois de mai s'est retrouvé pris, principalement et très rapidement, par des événements naturels, auxquels parfois, et même toujours, inévitablement, la politique se mêle. Le 2 mai, un cyclone au Myanmar fait des milliers de morts. 10 jours plus tard, le 12 mai, un tremblement de terre en Chine, touchant plus particulièrement la province du Sichuan, fait lui aussi des milliers de morts. On reste toujours un peu muet devant ce genre de catastrophe. Évidemment, on ne peut s'en prendre à personne. La Terre est une planète sur laquelle la vie est apparue et cette vie fait sa vie. Qu'une parcelle de cette vie ait développé une conscience n'est qu'un accident de plus dans la série de coïncidences qui ont présidé à l'apparition de la vie. Pourquoi serait-on épargné sous prétexte qu'on pense, qu'on rêve, qu'on s'interroge, qu'on s'émeut? N'empêche, les catastrophes naturelles nous ramènent à une sorte d'humilité, nous mettant à égalité avec les fourmis et nous met aussi devant notre néant. Voilà, ça peut finir comme ça. Notre existence n'aura aucune signification, on n'aura pas eu le temps. Peut-être qu'avec 10 ans de plus, on aurait créé une œuvre, découvert ou inventé quelque chose, ou simplement fait le bien autour de soi, qui sait. On aurait probablement aussi fait un peu de mal, blessé des gens qu'on aime, enfin. Tout ce qui fait une vie humaine, mais on n'aura pas le temps. Le pire, c'est qu'on ne retiendra pas la leçon. Les catastrophes naturelles ne viennent jamais seules, la politique finit toujours par s'en mêler, pour le meilleur et pour le pire, comme le dit la formule consacrée, et qui, d'ailleurs, ne s'applique plus tellement au mariage. Mais je n'en suis pas nostalgique, je ne chanterai pas les vertus du bon vieux temps, de celui de nos grands-parents qui restaient mariés, eux, évidemment, prisonniers qu'ils étaient d'une dépendance mutuelle qui ne rendait probablement personne heureux. Pour le meilleur et pour le pire, donc, ça dessine un spectre assez large dans lequel le Myanmar et la Chine vont trouver à se loger. Au Myanmar, la junte militaire refuse l'aide étrangère, puis la laisse entrer au compte-goutte. On ne veut pas non plus trop en dire sur les conséquences du cyclone. Combien y a-t-il de morts et de blessés? C'est toujours ce que le public veut avoir des chiffres. On ne veut pas le dire, le révéler. Est-ce parce qu'on ne veut pas se montrer faible, vulnérable? En Chine, 10 jours plus tard, c'est tout le contraire, la grande surprise des journalistes. Le gouvernement chinois réagit vite et efficacement dans une transparence inédite jusqu'à maintenant. Mais c'est que les Jeux olympiques de Beijing ont lieu bientôt. Le gouvernement chinois n'a, dans ces circonstances, pas vraiment le choix. Les Jeux de Beijing. Les athlètes devraient-ils refuser d'y participer? N'est-ce pas trop leur demander quand on sait que ces athlètes s'entraînent pendant des années pour ça, pour ce moment-là, qu'il a lieu à Beijing ou à Londres, ce moment-là donc qui ne se présentera pas 2 fois? Peut-on leur demander dans ce contexte de faire de la politique? C'était au CIO de faire de la politique, ce qu'ils ont fait, mais pas de la bonne manière. On ne peut demander aux athlètes de faire ce que les hommes politiques n'ont pas eu les couilles de faire. Cela revient à rendre les athlètes responsables de la faute des autres. Évidemment, un boycott serait formidable, mais 40 ans après mai 68, on n'est plus à l'heure des révolutions. On est dans une ère plus individualiste et les athlètes font ce qu'ils ont à faire, en essayant de ne pas penser au fait que, politiquement, c'est douteux. Comme nous d'ailleurs, qui achetons chez Walmart des produits made in China ou made in Bangladesh, Malaisie et j'en passe, sans peser les conséquences de ces gestes qui sont bien, on voudrait l'oublier, politiques et politiquement douteux. Mais peut-on tous se payer le luxe d'une conscience politique? Je ne mets pas les pieds chez Walmart, mais je peux me le permettre. Puis-je pour autant condamner la mère monoparentale vivant sous le seuil de la pauvreté de vouloir payer ses couches moins chères? Je n'y arrive pas. Tout est politique, certes, mais une conscience politique, ça peut coûter cher. Et évidemment, ça aussi, c'est politique. Entre le cyclone et le tremblement de terre, une bonne nouvelle, enfin. Enfin, une manière de bonne nouvelle. Ça va mal pour la chasse aux phoques. On annonce aujourd'hui 5 mai que seulement 3 800 phoques ont été tués, sur une possibilité de 15 000. Rassurez-vous, toutefois, il reste encore 2 semaines, on peut encore atteindre le 15 000. On nous apprend aussi que les chasseurs pourront abattre l'an prochain une partie du quota non utilisé cette année. Rien de perdu, donc. La faute de ce malheur, c'est le réchauffement climatique, encore lui. Il faut aux pêcheurs aller de plus en plus loin pour trouver les glaces sur lesquelles se trouvent les phoques. Tout ça est évidemment annoncé comme une mauvaise nouvelle, mais moi, dans ma voiture, puisque ce n'est que là que j'écoute la radio, je jubile et j'ai envie de klaxonner pour célébrer. Vraiment, cette nouvelle fait ma journée. Le réchauffement climatique protégerait donc les phoques, alors vive le réchauffement climatique, j'ai bien fait de prendre ma voiture. Mais est-ce aussi simple? Si les glaces sont plus loin, c'est peut-être qu'il y a moins de glace. Et les phoques ont besoin de ces glaces pour se reproduire. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle? Et puis, qui suis-je, moi, pour m'apporter ainsi à la défense des phoques, dans la lignée des Brigitte Bardot et autres Lady Paul McCartney? Et je ne parle pas ici du fait que je ne suis pas une célébrité. Non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est de quel droit je parle. À partir du moment où je ne suis pas végétarienne, macrobiotique, etc., et je ne le suis pas, puis-je sincèrement? Et je pèse mes mots ici, il s'agit bien de sincérité, d'intégrité aussi. Puis-je sincèrement donc m'opposer à la chasse aux phoques, alors que dans le même temps, je mange du bœuf, du poulet, du porc, de la viande issue d'élevage, dont j'aime mieux ne pas connaître les conditions? Suis-je sincère ou ne suis-je qu'une hypocrite qui s'ignore? Je ne prônerai pas le retour à la Terre. Je ne m'exilerai pas sur une ferme. L'époque des chasseurs-cueilleurs est révolue. Vouloir retourner en arrière n'est qu'une gentille utopie, probablement inoffensive, quoique, c'est à voir. C'est toujours à voir, finalement. Plus possible de ne rien affirmer, même plus possible de se réjouir pour les phoques, parce qu'immédiatement, on se sent en imposture. Quand même, profitons d'un moment d'innocence et réjouissons-nous pour les phoques. Un petit moment, le temps de sourire, fermer les yeux, ne penser à rien, ne penser à rien d'autre. Voilà, c'est terminé. La prochaine nouvelle que je rencontre, parce que c'est ça que ça fait, le hasard, ça provoque des rencontres, m'intéresse peu. Mais elle me fait sourire. C'est comme les phoques, enfin pas tout à fait comme les phoques, le sourire des phoques est rempli d'une innocence qui fait du bien. Des glaces de l'Atlantique, donc, on se transporte à Moscou, où Medvedev s'apprête à remplacer Poutine comme président de la Russie. Rusé, Poutine oblige toutefois Medvedev à le nommer premier ministre, ayant bien pris soin préalablement d'avoir fait voter en tant que président un tas de lois transférant le plus de pouvoir possible au premier ministre. On peut sourire, désabusé, cynique, rien à voir avec le sourire des phoques. Et puis, suit cette petite info qui m'accroche, un peu en parallèle, qui concerne Svetlana Medvedeva, la femme de l'eau de Medvedev. Ce qu'on nous dit, ce qu'on nous apprend, ce qu'on nous révèle, c'est que Svetlana, et notez qu'avec les femmes, on utilise souvent les prénoms plutôt que les noms, comme avec les hommes. On dit Sarkozy, mais Ségolène. Obama, mais Hillary. Du côté du sport, du tennis, par exemple, on dit Federer, mais Justine. Et ainsi de suite. Comme si on craignait d'enlever aux femmes leur féminité en les désignant par leur patronyme. Ou alors c'est que trop souvent ce patronyme n'est pas le leur, comme le cas de Clinton notamment qui s'appelle Clinton parce qu'elle est Maria Clinton. Alors avec Hillary, oui, on la distingue de Clinton, c'est sûr. Pourquoi pas, mais quand même. Cette familiarité, condescendance peut-être, qu'on a tendance à avoir avec les femmes publiques, et le double sens est ici amusant et effrayant à la fois, vertigineux même, comme si les femmes publiques, les politiciennes, les athlètes par exemple, faisaient moins autorité, moins figure publique justement, et plus femmes publiques. On peut être plus intime, plus rapidement avec Hillary, Ségolène, Justine et Svetlana. Svetlana, d'ailleurs, qui est, nous dit-on, une femme à la fois branchée dans le milieu des arts et celui de la mode, et dévote. Curieux mélange qui a attiré mon attention, précisément parce que je le trouve curieux. Du coup, c'est moins sur Svetlana Medvedeva, femme branchée et dévote, qu'on en apprend, mais sur moi. On ne peut pas être à la fois branchée et dévote? Impossible, je décrète, puisque je trouve ça curieux. Et je commençais déjà à soupçonner ce préjugé chez moi, je ne l'ai pas découvert au mois de mai avec Svetlana Medvedeva. Non, mais avant, un autre mois de mai, c'est faux, évidemment ce n'était pas en mai, mais ça paraît bien, ça établit une structure à mon propos. Ça remonte à un autre mois de mai, donc, je ne pourrais dire l'année, cette découverte d'un préjugé que j'entretiens, il faut croire, envers la foi. On ne peut pas être artiste ou écrivaine et croire en Dieu. Bien sûr, Michel-Ange, et je réponds, qu'aurait-il fait réaliser comme merveille sans les contraintes de la foi? Combien d'artistes ont été ainsi limités par leur religion? Et je réponds aussi, Michel-Ange, c'est une autre époque. C'est comme pour les chasseurs-cueilleurs et les mariages pour le meilleur et pour le pire. Époque révolue. Depuis plus d'un siècle, croire en Dieu, c'est autre chose. Ça demande, il me semble, un aveuglement, un suicide philosophique, aurait dit Camus, un désir, tout à fait compréhensible par ailleurs, d'échapper au néant. Donc, créer une œuvre littéraire, artistique et croire en Dieu, voilà ce qui me semble impossible en 2008, entre autres choses. Et deuxième donc, Medvedeva, branchée dans les milieux artistiques et dans ceux de la mode, ainsi que dévote, curieux mélange. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, en effet, puisqu'il y a l'ornithorynque. Mai 2008 aura été pour moi le mois de l'ornithorynque. Car c'est en mai 2008 que la nouvelle tombe, que le monde apprend qu'on a séquencé le génome de l'ornithorynque, enfin, d'un ornithorynque en particulier, je devrais plutôt dire une, car il s'agit d'une femelle, Glennie, qui vit en Australie. Les ornithorynques vivent en Australie et en Tasmanie. Glennie a très aimablement accepté qu'on séquence son génome, qui présente un fascinant mélange, beaucoup plus fascinant que celui de Svetlana Medvedeva. L'ornithorynque à fourrure et bec de canard est donc bel et bien un animal particulier, à la fois reptile, oiseau et mammifère, comme on le soupçonnait. La femelle pond des œufs et allait de ses petits, le mâle sécrète un venin comparable à celui des serpents. L'ornithorynque pourrait bien avoir été inventé par Borges, dont l'encyclopédie chinoise a tant fait rêver Foucault. Et je vous la rappelle, cette encyclopédie chinoise où il est écrit que, et je cite Foucault citant Borges, que les animaux se divisent en A, appartenant à l'empereur, B, embaumé, C, apprivoisé, D, cochon de lait, E, sirène, F, fabuleux, G, chien en liberté, H, inclus dans la présente classification, I, qui s'agite comme des fous, J, innombrable, K, dessiné avec un pinceau très fin en poil de chameau, L, etc., M, qui vient de casser la cruche, N, qui de loin semble des mouches. L'ornithorynque serait-il un animal impossible? D'ailleurs, quand des Européens ont découvert l'ornithorynque en 1798 et qu'ils ont envoyé des scientifiques britanniques son pelage et des dessins le représentant, les scientifiques ont cru à un canular. C'est que l'ornithorynque défie nos catégorisations et nos classifications auxquelles on semble visiblement pas capable d'échapper. Ce que Glennie, l'ornithorynque, nous révèle en mai 2008, en plus de son génome, n'est-ce pas une nouvelle manière de penser le monde? Plutôt que d'évaluer l'ornithorynque à l'aune de nos catégories habituelles, ne devrait-on pas inverser les choses et apprendre à repenser le monde à partir de l'ornithorynque? Et je me permets ici de reciter Foucault, qui évidemment n'a pas parlé de l'ornithorynque, toujours dans les mots et les choses. En s'inspirant de l'ornithorynque, je cite Foucault, « C'est à notre sol silencieux et naïvement immobile que nous rendons ses ruptures, son instabilité, ses failles. Et c'est lui qui s'inquiète à nouveau sous nos pas. »